je suis aujourd'hui au Salon des éditrices indépendantes de Limoges. C'est la deuxième édition et je suis avec les deux organisatrices, Marie et Isabelle. Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre événement ?
Alors, je suis éditrice, moi c'est Marie. Nous sommes la maison d'édition Marsa Publication Animation. Mais nous organisons aussi des événements culturels, comme par exemple ce salon.
Moi, je suis la curatrice du salon. Voilà, je fais partie du comité de rédaction de la revue A, des éditions Marsa. Donc, voilà, j'accompagne Marie dans cette belle aventure du salon.
Voilà, c'est la deuxième édition de ce salon, toujours avec entre 30 et 40 éditrices accompagnées de leurs auteurs qui restent 3 jours avec nous sur Limoges.
Là, nous sommes donc au deuxième jour et déjà, nous avons eu des retours des éditrices, à savoir que c'est un salon à taille humaine, dans un lieu absolument magnifique, qui permet aussi la rencontre et puis l'émergence. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive du côté de mettre en évidence la singularité de chaque éditrice et chaque maison d'édition.
Et alors, plus personnellement, pour votre maison d'édition à vous, comment ça se passe ? Comment vous vous êtes lancée en fait dans l'aventure et depuis quand votre maison d'édition existe-t-elle ?
Alors, la maison d'édition ici sur Limoges existe sous forme associative depuis 8 ans. L'idée est venue petit à petit, mais comme je suis éditrice depuis longtemps, je me suis souvent fait la remarque que cette profession avait beaucoup de femmes en son sein, mais la plupart du temps, elles étaient employées dans des autres boîtes. Et je voulais savoir du côté de l'édition indépendante ce qu'il en était. Donc, j'ai fait une petite enquête auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et je me suis aperçue qu'il y avait à peu près un quart d'éditeurs indépendants qui étaient des éditrices. Et je me suis dit, mais ces femmes, elles ont peut-être quelque chose à dire de particulier, parce que c'est difficile de se lancer dans l'aventure financière, la gestion, l'entrepreneuriat au féminin, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, j'ai voulu en savoir plus et je me suis dit, est-ce qu'il existe des salons comme ça, où on mettrait en avant les éditrices ? Et je me suis aperçue qu'il n'en existait pas en France et même dans le monde. Donc, nous sommes ici le premier du genre, on est pionnière. Il n'y a qu'à Mexico où des femmes ont tenté une aventure semblable à la nôtre, vous voyez ? Donc c'est un moment assez unique.
Et alors ce salon, on pourra le retrouver dans 2 ans, au même endroit ?
Nous espérons fortement que oui.
Yes. Voilà, Inch'Allah comme disent certains.
Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très bonne journée, un très beau salon.
Merci infiniment.
Et donc maintenant, je suis sur le stand de la maison d'édition Toi Édition avec Cécile Haussan, l'éditrice. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre maison d'édition ?
Donc moi, je suis Cécile Haussan. J'ai plutôt un parcours de géographe et j'ai habité 30 ans sur le plateau de Millevaches, entre Peyrales-Château et Moutier tout particulièrement. Je suis plutôt en fin de carrière professionnelle et j'ai créé la petite maison d'édition, donc Toi Édition, en Ariège, puisqu'il y a 2 ans, j'ai migré dans les Pyrénées. Une petite maison d'édition de poésie avec une collection qui s'appelle Des lieux et des visages. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que le regard est un lieu et le lieu est une conversation et que l'ensemble de ces éléments-là font qu'on est en interaction permanente avec notre environnement. Et les auteurs qui sont publiés chez Toi Édition proposent des textes, travaillent de la poésie autour de cette interaction des paysages, de la nature, de notre environnement qui rejoint notre humanité au quotidien.
Et alors, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui ?
La poésie a du sens et faire des livres a du sens que si on va à la rencontre des publics et du coup les salons en général, mais le salon des éditrices, c'est une façon de faire connaître le livre et le travail des auteurs. Être éditeur, c'est un travail à 4 mains avec un éditeur et un auteur et les publics qui sont nos lecteurs. Et c'est dans cette trilogie-là que les choses ont un sens. Et puis aussi, tout simplement, aller au Salon des éditrices à Limoges, c'est rencontrer les copines et les collègues qui, eux aussi, font un travail remarquable de publication des auteurs et puis sur la place de la femme, bien sûr, dans ce travail d'éditrice.
Alors, vous m'avez dit que ça fait qu'un an et demi que vous avez monté votre maison d'édition. Comment ça s'est passé ?
En fait, dans mon parcours professionnel, après la Géo ou pendant la Géo, je ne sais plus, j'ai fait un petit détour vers la lecture publique, vers le monde des médiathèques. Et donc, j'ai approché le livre de près. Et pour ensuite me dire que j'avais envie de ce parcours d'édition. En fait, c'est très simple. J'ai eu la chance de rencontrer des éditeurs. J'écris un petit peu moi aussi. Et j'ai appris le métier, la fabrication du livre, l'utilisation des logiciels auprès d'un autre éditeur qui est dans les Pyrénées. Et après, il y a tout le travail de... En fait, éditer un texte, c'est aimer un texte avant tout. C'est tomber amoureuse d'un texte. Et ensuite, il y a tout un travail qui se met en route avec l'auteur. Ils viennent vers moi par des canaux divers et variés, soit par des rencontres, soit par les réseaux, soit par les réseaux sociaux, par exemple. Mais aussi maintenant, avec un an d'existence, ils viennent vers Toi Édition parce qu'ils ont appris à connaître la maison d'édition et ils me proposent des textes.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des points forts justement de l'édition ? Pourquoi choisir un parcours classique quand on veut éditer son livre plutôt que potentiellement l'auto-édition où on fait tout soi-même ?
Moi, je reviens sur cette idée que pour un auteur, de rejoindre un éditeur, c'est aussi donner de la visibilité, de la lisibilité de son travail. C'est peut-être être plus fort pour aller à la rencontre des partenaires indispensables, les médiathèques, les libraires, d'autres lieux. Je vais aussi beaucoup dans les maisons de la poésie. Par exemple, on a ici Bruno Mabi avec L'amour des idées qui était au Salon international de la poésie à Bucarest. Donc il y a cette énergie collective qui me semble importante, nécessaire et porteuse pour l'auteur.
Et alors, si quelqu'un venait vers vous pour vous demander des conseils sur comment publier son livre, si cette personne ne savait pas si elle avait envie de potentiellement passer en auto-édition ou passer par une maison d'édition, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ?
En fait, moi et ma petite expérience aujourd'hui, qui reste toute petite, j'oppose pas l'une ou l'autre des possibilités, s'auto-éditer ou pas. Si je prends Patrick Chemin, c'est son 40e ouvrage, c'est un homme de théâtre et de poésie qui, à certains moments de son parcours, a fait le choix de l'auto-édition. Donc, j'oppose pas les deux. Je dis simplement, peut-être que la lisibilité est plus forte et plus conséquente si on va vers un éditeur et que cet éditeur publie. Une des difficultés, sans doute, rencontrées par les auteurs, c'est le refus des manuscrits par chacun d'entre nous. Nous recevons, moi j'ai un an d'existence, et nous recevons beaucoup de manuscrits. Et donc ça, c'est une vraie question.
Et alors, dernière question, c'est quoi qui fait qu'un manuscrit est refusé ?
Alors, soit moi je travaille dans la maison d'édition Toi Édition sur un format carré, 15-15, d'accord, dans une thématique qui est plus liée aux questions environnementales, aux questions d'aménagement, aux questions des paysages et de notre relation dans ce monde-là. Donc, l'important pour un auteur, c'est qu'il ait pris le temps de connaître un petit peu la ligne de la maison d'édition pour proposer des choses qui rentrent à l'intérieur. Parfois, pas souvent, mais parfois, on reçoit des choses qui sont extrêmement différentes. Moi, je fais de la poésie, je ne fais pas du roman policier ou du roman. Donc, on peut déjà refuser parce que ça ne correspond pas à ce qu'on porte aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et puis, malheureusement, on peut être amoureux de quatre textes, quatre manuscrits superbes et que, d'un point de vue économique, eh bien, on en prendra qu'un sur les trois, même s'il y en a vraiment trois super. Donc, il y a plusieurs facteurs à ça. Mais avant tout, c'est être vraiment aimer un texte. Je crois que ça, c'est très clair, quoi. Il m'arrive, moi, en me disant, attention, tu as un format carré, donc petit texte, etc., et trouver que voilà, j'ai reçu une perle et là, je vais être dans une autre démarche. Mais c'est, on ne peut pas tout éditer. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée.
Merci à vous.
Alors, je suis sur le stand de la maison d'édition Lire des Marges avec Bérangère. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et présenter votre maison d'édition ?
Alors, c'est une maison d'édition qui va fêter bientôt ses 12 ans. C'est une maison d'édition de littérature contemporaine. Donc, je publie des romans, des récits, des nouvelles, un petit peu de poésie, parfois un peu de théâtre. Donc, c'est assez large.
Et alors, qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui ?
Je viens participer donc à cette deuxième édition du Salon des éditrices indépendantes parce que c'est l'occasion de rencontrer de nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices et puis de mettre en avant les ouvrages que je publie.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir éditrice ?
Tout simplement parce que la lecture était pour moi quelque chose de fondamental dans ma vie. Hein. Je crois que ça a accompagné, depuis que je sais lire, tous les moments de ma vie. Et puis parce que j'avais envie de porter, de donner à entendre des voix singulières. Il se trouve que je suis tombée sur des manuscrits, qu'on me les a proposés, et que c'est l'envie de porter ces textes et de les faire connaître, et de leur donner une forme, le livre, qui m'a amenée à faire ce métier.
Et alors, comment est-ce qu'on monte une maison d'édition, en fait ?
Vaste question. Faut trouver un petit peu d'argent pour commencer. Faut trouver des textes. Il faut entrer en relation avec des auteurs. Il faut savoir aussi pourquoi on veut porter ces textes. Et puis, petit à petit, y a une cohérence au fil des années qui se construit. On se rend compte que finalement, il y a un lien, même s'il n'apparaît pas immédiatement, entre les différents textes qu'on publie.
Et c'est quoi le processus quand on reçoit un manuscrit ? Qu'est-ce qui se passe après ?
Qu'est-ce qui se passe après ? On rentre en contact avec l'auteur une fois qu'on a reçu son manuscrit, on discute avec lui, on fait des choix par rapport au... Parfois il y a beaucoup de corrections, parfois il y en a très peu. Et donc voilà, on s'entend sur la forme définitive que prendra le livre. Et puis après, c'est un processus classique. Hein. On fait une maquette, parfois on le confie à quelqu'un d'autre, on le fait soi-même. Et puis voilà, on donne une forme à ce livre, on choisit parfois une image, quelque chose pour la couverture. Et voilà, et puis après on l'imprime et après on le diffuse. Enfin voilà, c'est un long processus en général.
Et alors, quels sont les points forts justement de l'édition classique ?
Pour tout dire, je ne suis pas très en faveur de l'auto-édition, forcément. Parce que je crois que c'est fondamental pour un auteur d'avoir un point de vue extérieur. Parce qu'on n'écrit pas tout seul, en fait. Et je pense que notamment l'éditeur ou l'éditrice est garant aussi de la question de l'adresse. Quand on écrit pour soi, on fait ce qu'on veut. Quand on décide de faire un livre, on va l'adresser. Et ça ne veut pas dire renoncer à ce qu'on veut, mais ça veut dire prendre en compte le fait qu'il va être destiné à d'autres personnes. Et je pense que l'éditeur, il est là pour travailler ça avec l'auteur.
Et du coup, comment est-ce que vous accompagnez l'auteur, justement ? Quel retour vous lui faites ? Quelle est votre part de droit, en fait, sur la modification du récit, de l'ouvrage en général ?
En fait, c'est une question d'entente, on discute beaucoup. Encore une fois, ça, c'est très variable. Hein. Il y a des textes qu'on a très peu besoin de... D'abord, on ne les retouche pas. Enfin, moi, je ne les retouche pas moi-même. Hein. Je propose des corrections. Ça peut être sur la structure du texte. Ça peut être tout simplement après sur des choses de l'ordre de la correction, de la ponctuation. Enfin bon, il y a des corrections qui ne se discutent pas. C'est la norme de la langue. Encore que là aussi, ça peut se discuter parce qu'on peut des fois décider que... On fait des choses qui ne sont pas totalement en accord avec la norme de la langue, mais pour autant qui peuvent se justifier. Donc en fait, c'est une grande discussion qu'on a avec l'auteur, un échange où chacun fait un peu une partie du trajet. Nous, on apprivoise la langue de l'auteur et l'auteur entend ce qu'on lui propose. Et voilà. Il n'y a pas de règle en fait, hein. c'est un dialogue.
Et quel conseil vous donneriez à des auteurs justement qui voudraient se faire publier ou potentiellement voudraient s'auto-publier ?
De lire les autres auteurs. Je crois qu'encore une fois, on n'écrit pas tout seul, on écrit en lien avec des choses qu'on a lues, avec une espèce de culture, on va dire, hein, de lire, de découvrir les catalogues des éditeurs. Du coup, ce n'est pas de l'auto-édition. Moi, je crois assez peu à l'auto-édition, pour tout dire. Mais oui, je crois qu'en fait, c'est ça, c'est de découvrir des univers, des catalogues. Je crois que c'est la première chose à faire.
Bah, c'est super, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Avec grand plaisir, merci à vous.
J'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Ada Parm cette année, en 2024, et qui se positionne comme une maison qui publie des textes de fiction inoubliables portés par une belle langue et dans des beaux écrins. Donc ce sont des éditions limitées, collector, numérotées, reliées avec des signets et associées à des accessoires de lecture exclusifs, voilà, des pochettes à livres en beau tissu pour créer un univers autour de chaque livre et que les lecteurs et les lectrices puissent se créer un univers, une petite collection qu'on peut garder, transmettre. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure en fait, de l'édition ?
Alors, ça fait depuis des années que je travaille dans l'édition en tant que d'abord traductrice littéraire. Donc je suis dans les textes voilà, depuis toujours, même comme lectrice en premier lieu. Et puis je me suis plus dirigée ensuite vers le travail d'édition, de coordination éditoriale en tant qu'indépendante. Donc j'ai travaillé pour pas mal de maisons. Et puis depuis longtemps, je voulais porter une idée un peu plus globale autour des livres, du moment où on trouve le texte, le beau texte, au moment où on va créer l'objet qui va le porter. Et donc ça passe aussi par la direction artistique, voilà, trouver les artistes, les illustrateurs, les imprimeurs, et créer tout un univers autour des textes.
Justement, comment ça se passe ce processus et en compagnie de l'auteur ?
Alors là, par exemple, le premier livre que je publie, c'est un roman italien. Donc, en tant que traductrice, moi, je cherche toujours des textes, en fait, que ce soit en ligne, sur des blogs, des recommandations, en bibliothèque, etc. Donc ça, c'est un texte que j'avais trouvé. Je l'avais trouvé dans la bibliothèque du Centre culturel italien à Paris. Voilà, donc je l'avais lu en italien. Puis voilà, j'ai décidé de le traduire pour cette première publication. Mais voilà, les textes, on peut en recevoir par des auteurs, par le bouche à oreille. C'est vraiment un travail de tous les instants, de chercheur d'or un peu, de chercheur de pépites.
Et alors, quelle est la part de décision de l'éditeur dans le récit, dans la publication du livre par rapport à l'auteur ?
Alors là, comme il s'agit d'un texte étranger qui avait déjà été publié, il n'y a pas eu d'intervention sur le texte en lui-même, sur sa structure, etc. Après, sur la traduction, moi, j'ai pu interagir avec l'autrice sur certains passages ou certaines choses à passer en français, en fait, sur des références, etc. Donc, on peut avoir cette discussion. Mais ensuite, sur les textes qui seraient français, moi, en tout cas, en tant qu'éditrice, si je choisis un texte français, c'est parce que je le trouve déjà abouti. Je pense que j'aurais du mal à trop intervenir sur les textes parce que j'estime que c'est la part de l'auteur aussi de connaître exactement le texte dans sa globalité, l'unité qu'il veut lui donner. Et après, on peut intervenir sur tout ce qui est la typographie, la syntaxe, l'orthographe. Ça, on va dire que c'est presque anecdotique. Mais en général, je pense que j'aime recevoir les textes vraiment aboutis.
Et au niveau du graphisme du livre, de la couverture, du rendu final, quelle est la part d'édition justement de l'auteur sur ces choix-là ?
Alors sur ce texte, j'ai travaillé plutôt moi en interaction avec l'illustratrice, sans intégrer l'autrice dans la boucle. Elle m'a fait confiance en fait de A à Z sur la création du livre. Et puis ensuite voilà, je lui ai quand même soumis bien sûr les propositions de l'illustratrice à un certain moment quand même du processus qu'elle a adoré. Donc ensuite on a avancé l'illustratrice et moi pour la finalisation.
Et alors, quel conseil vous donneriez justement à un auteur qui hésiterait entre se faire publier par une maison d'édition ou faire de l'auto-édition ? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez et pourquoi ?
Alors déjà, un auteur qui voudrait être publié par une maison d'édition, je lui conseillerais de se rapprocher de... Déjà, par exemple, hein, c'est sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, il y a des groupes en fait d'auteurs qui se donnent des conseils en fait sur des maisons. Donc, parce qu'il y a aussi beaucoup de maisons en France qui sont des fausses maisons, entre guillemets, qui proposent aux auteurs de les publier, etc. Mais en fait, ce sont des maisons à compte d'auteur, c'est-à-dire que les auteurs doivent payer eux-mêmes pour se faire publier. Donc, c'est de l'autopublication déguisée. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, je les conseillerais de vraiment se renseigner sur édition à compte d'auteur et édition à compte d'éditeur. Et ensuite, de cibler vraiment leurs envois. Parce que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits qui sont parfois très mal ciblés. On va envoyer en masse à des maisons qui, de toute façon, ne les publieraient pas. Donc connaître les catalogues des maisons auxquelles on s'adresse, bien les connaître, pouvoir en parler avec les éditeurs qu'on contacte pour montrer voilà, qu'on n'envoie pas son manuscrit au hasard. Donc vraiment bien préparer son envoi, bien faire corriger son texte, envoyer un manuscrit propre en fait, c'est la première impression. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, c'est la première impression qui compte. Donc faire attention à ça. Et je pense qu'après, c'est tout le travail aussi de marketing en fait. Et je pense qu'il y a des auteurs autopubliés qui vont bien mieux réussir en fait qu'un auteur publié dans une maison qui n'aura pas forcément les bons canaux de vente ou qui ne saura pas forcément bien vendre. C'est vraiment un équilibre à trouver. Et je trouve que le monde de l'édition est très vaste et caractérisé par une grande surproduction. Donc voilà, il faut se différencier en tant qu'auteur, il faut se différencier même en tant qu'éditeur avec des propositions originales. Et voilà, pour les personnes qui écrivent, je le répète, c'est vraiment d'envoyer un manuscrit bien propre, bien finalisé et surtout de bien cibler et d'aller vers des éditeurs qui vont être respectueux du travail et proposer des contrats qui sont officiels en fait. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Sophie. Bonne journée.
Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.